Bonsoir à tous. Nous allons essayer de voir ensemble les significations que recouvrent les trois consonnes du mot « Hamas ». Et ces trois consonnes sont le « Ret », que vous voyez sur cette première diapositive, qui est avec un H apostrophe, le « Mem » et le « Samer ». Mais auparavant, je rappellerai qu'en hébreu comme en arabe, la lecture des mots, des lettres et des mots se fait de la droite vers la gauche. Et que, contrairement au français où les consonnes accompagnent les voyelles hébraïques accompagnent les consonnes et ne sont pas toujours transcrites sur les textes. Nous allons, dans un premier temps, analyser la signification des lettres et des couples de lettres qui composent le mot « Hamas ». Puis, les différences de signification du mot « Hamas » entre les deux langues sémitiques que sont l'hébreu et l'arabe, au travers d'interprétations de grands sages. Et on va terminer sur l'étude qu'en fait Philippe Ahadad au travers de l'analyse du comportement des prophètes dans son petit recueil rouge qu'il nous a présenté l'an dernier, Élie et Jonas, prophètes de l'extrême. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier Jean-Claude Roland, spécialiste de la langue arabe, et notre ami Gérard Manon, spécialiste du Talmud, qui m'ont aidé à trouver des sources sur la relation qui existe entre les mots Hamas et Humus. Quelle différence existe-t-il entre le Hey, qui est la cinquième lettre de l'alphabet, et qui représente l'être, l'existence paisible, celle de l'Éternel qui a été, qui est et qui sera, et le Ret, huitième lettre de l'alphabet, qui désigne la survie, le fait de s'accrocher à la vie en luttant et en fermant la petite fenêtre qu'on voit sur le côté de la lettre pour ne pas être attaqué de l'extérieur. C'est toute la différence entre vivre et survivre. Quelle similitude maintenant voyez-vous entre le même normal ou final, hein, les deux formes selon que le M se trouve au début ou à la fin du mot, et le Samer? Eh bien, ce sont toutes les deux des lettres entièrement fermées. Comme vous le voyez sur la photo, elles ressemblent à des menottes. Quand on réunit les lettres Ret et Mem, on obtient Ram, la chaleur. Cette association se trouve dans un certain nombre de racines hébraïques. Rama, c'est la colère. Milhama, c'est la guerre. Param, les braises. Hamesh, 5, et son dérivé le Rumash, qui correspond aux 5 livres de la Torah, qui racontent d'ailleurs bien souvent des histoires de guerre. L'Erem, le pain, on dit Bethlehem ou Bethlehem plutôt, la maison du pain. Hametz, qui est le pain levé que nous ne devons pas consommer pendant les fêtes de Pâques ou de Pessah. Chometz, le vinaigre. Chamor, l'âne. Chemed, agréable. Chamal, la compassion. Nahom, la consolation. Bref, de la chaleur humaine. Quand on réunit maintenant les lettres M, Mem et Samer, on obtient Mas. qui veut dire le tribut, la contribution plus précisément. Cette association se retrouve dans un certain nombre de racines hébraïques, telles que massim, les impôts, c'est la contribution, massat, la proportion, amos, comme le prophète, chargé, massa, le voyage, massar, le rideau. Et donc, pour établir un premier lien entre ces deux couples de lettres, donc ram et mas, on peut dire qu'on paye pour se chauffer, ram, des charges, des impôts, locatives, mas. Si on réunit les trois lettres par la conjonction de coordination et qu'on dit en hébreu vav, cela donne humus. Ces deux mots, hamas et humus, auraient-ils un rapport entre les deux? Pour essayer d'en savoir plus, j'ai interrogé un linguiste éminent, M. Jean-Claude Roland, auteur de l'excellent dictionnaire étymologique de la langue française chez Hatier, et de nombreux ouvrages sur la langue arabe, dont un dictionnaire des mots de l'arabe moderne d'origine non sémitique. Il m'a fait la réponse suivante. Aucun rapport entre les deux mots. La troisième lettre de la racine rimis, pois chiche, est un S emphatique, alors que celle de ramassa, d'où dérive le mot ramasse, et qui signifie bravoure, courage, guerrier, est un S non emphatique. Le sens premier du verbe ramassa est frire la viande, et par métaphore, irriter, se mettre en colère. Comme en hébreu, le radical ram rappelle la notion de chaleur. Et je citerai dans la liste qui m'a fournie et que vous pouvez voir sur la diapositive, le hammam, qui est ce bain chaud thermal qu'on a toujours plaisir à fréquenter, et le palais de l'Alhambra, ou qu'on devrait dire plutôt Al-Hamra, de Grenade, qu'on peut traduire par le rouge. Ça rappelle cette notion de chaleur. Et il conclut dans sa réponse avec un émoticône de sourire. « Désolé, mais vous ne pourrez pas parler du pois chiche dans votre conférence. » Cette réponse souligne les dangers du rapprochement de racines phonétiquement homonymes. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. En hébreu, la signification première du mot « hamas », c'est « violence »,« iniquité ». Rashi y associe la notion de vol à celui de violence. Dans le traité du Talmud Baba Kama, 62a, on distingue deux sortes de vols. Il y a le vol classique qu'on appelle gazal et l'extorsion qu'on appelle ramsa, donc exactement comme ramas, hein, où le voleur menace de mort le propriétaire s'il ne cède pas l'objet qu'il désire mais l'indemnise à sa juste valeur de cet objet. C'est-à-dire qu'il lui paye ce qu'il doit, mais il l'oblige à le vendre. Cette vente forcée est considérée comme un vol, comme une violence. Et le commentateur de la Torah, qu'on appelle Ankelos, précise que cette notion de vol par un terme araméen, atoufin, qui signifie « kidnapping ». La mise en parallèle entre la signification du mot « hamas » en arabe et hébreu aboutit au fait que les « hamasnikim » sont convaincus de leur bon droit qui consiste à voler, tuer, kidnapper l'autre, l'ennemi, le juif. Cela lui paraît même nécessaire et juste et s'y livre avec enthousiasme et zèle comme le suggère le sens littéral du mot. La morale et l'éthique, même la plus élémentaire, n'a pas de sens dans leur raisonnement. Selon le Rav Samuel Simchon Hirsch, je déforme un peu son mot, excusez-moi. Le mot « ramasse » en hébreu représente une injustice qui échappe par sa nature sournoise à tout tribunal humain, mais qui finit par enterrer celui qui en est victime lorsqu'elle est pratiquée de façon continue. Dans Job 15, 33, il est dit « tel qu'une vigne, il sera dépouillé, on dit « vai remos », de ses jeunes grappes. Lorsque les grains de vigne tombent avant qu'ils soient mûrs, c'est que la vigne aura usé de ramasse à l'encontre du grain, non pas tout d'un seul coup, mais en lui retirant petit à petit sa nourriture jusqu'à ce qu'il tombe. Ramasse est en affinité avec Rometz, le vinaigre. C'est le produit d'une transformation progressive. Dans la Genèse 6:11, il est dit « La terre était corrompue devant la face de Dieu. Et alors la terre fut remplie d'injustice. Va-t-il m'aller à Aretz Hamas ?» Il y a eu d'abord la corruption morale, une faute dont on ne pense pas qu'elle soit de nature à porter un préjudice à la société civile. En effet, bien que la jeunesse soit débauchée, que les unions conjugales soient moralement corrompues, on reste persuadé que les affaires humaines peuvent continuer de prospérer et que les structures sociales peuvent subsister. Cependant, lorsque la terre est corrompue devant Dieu, toutes les institutions humaines deviennent impuissantes à sauver la société de la ruine. Le vol ne prévaudra certes jamais dans la société, car elle sait s'en protéger au moyen de prisons ou de sanctions pénales, et encore. Dans Bereshit Rabba 31.5, les choses sont précisées. Le ramasse ou spoliation, par opposition au brigandage, correspond à tout vol répétitif d'une valeur inférieure à une perruta, qui est équivalent à un sou. Par exemple, le vol d'un lupin ou d'un pois chiche. Tiens, le roux alors. Chacun d'eux ne justifiant pas d'une plainte au tribunal, fut-il d'instance. On ne va pas porter plainte pour le vol d'un pois chiche, vous êtes bien d'accord. Mais contre le ramasse, la pratique de l'illégalité, associée à la ruse, elle reste impuissante. Seule la conscience humaine, capable de porter un jugement sur elle-même devant Dieu, est à même d'y faire face. Ce noyau d'humanité que représente la conscience, l'immoralité, se réduit cependant à néant avec elle et se trouve anéanti et en même temps anéanti tout espoir de salut social. Deux versets plus loin, il est dit « Et Dieu dit à Noé, le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que la terre, à cause d'elle, est remplie de ramasse. Et je vais les détruire avec la terre. » Cela signifie que la situation est telle que s'il n'intervient pas, toute chair se détruira d'elle-même. Même l'étincelle divine qui restait encore à sauver en Noar aurait été irrémédiablement perdue. Autrement dit, il faut sauver la vigne de ce qui reste bon avant que tout pourrisse. Un peu plus loin, dans la Genèse, Sarai, qui n'avait pas encore d'enfant, dit à Abraham « L'injustice, et elle utilise le mot « ramassi », mon injustice, que je subis, repose sur toi. » Dans Genèse 16:5. Elle semble dire que les petites injustices, les petites moqueries, les petites railleries, les petites piques de la part d'Agar, qui me sont infligées quotidiennement, et qui échappent à la justice du fait de leur insignifiance, ont pour effet d'empoisonner la vie, ma vie, et elles troublent ma bonne humeur et engendrent de l'amertume. Elles ne me tuent pas, mais elles me rendent malade, elles me minent de l'intérieur. C'est un cancer qui me ronge, et c'est toi qui es responsable si maintenant qu'elle espère être mère, elle s'élève au-dessus de moi, car elle sait bien que c'est moi qui l'ai placée en ton sein, et que j'ai provoqué tout cela précisément dans le seul but de la rendre mère. La raison de son mépris à mon égard ne peut donc résister que dans ton comportement. » Rav Rish compare les mots hammam, fermentation, mise en mouvement. Non, c'est hammam, là, cette fois-ci, avec un hey. Fermentation, mise en mouvement. Hammam, l'échauffement stérile, et hammam, avec un ayn, qui veut dire échauffement productif. Donc, les trois mots sont très proches, mais chaque lettre a son importance et donne un sens différent. Donc, je répète, hammam, c'est mise en mouvement, hammam, échauffement stérile, et hammam, échauffement productif. Et ce qui permet de produire la vie, c'est l'alternance du chaud et du froid, de l'été et de l'hiver, du jour et de la nuit, de la pluie et du soleil, qui est symbolisé par l'arc-en-ciel qui s'élève en ces derniers jours. C'est le Shabbat et les jours de la semaine, le cycle menstruel avec ses périodes de Nida. C'est le respect de cette rythmicité qui apporte la vie et la croissance. C'est aussi l'alternance de la rigueur et de l'amour qui apporte la paix. Dans le livre des prophètes, Philippe Haddad analyse les comportements de deux prophètes, donc Élie et Jonas. Et il identifie ces deux forces contradictoires. D'un côté, les défenseurs de la rigueur, de la vérité monothéiste, sans compromis ni compromission, ils usent de la force, de l'anathème, de la guerre sainte, sans scrupule. Et à l'opposé, les tenants de l'amour, de la patience, de la générosité, qui tentent de tempérer les élans et les ardeurs des premiers. Et il termine en disant, « Si certains justifient leur intransigeance, leur violence, voire leur barbarie au nom des versets publics, évangéliques ou coraniques, il est heureux de savoir que les artisans de la paix retravaillent ces mêmes versets pour une pacification des cœurs. » Elle peut être résumée en deux conceptions de la religion. Mettre Dieu à son service, comme l'ont fait de nombreux rois de France, notamment pendant les croisades, ou se mettre au service de Dieu. Je vous remercie de votre attention.
Notre ami a tout dit là. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Avec un seul mot, moi, quand je vous disais tout à l'heure, juste dans la langue hébraïque, un mot, bon, on peut le. Par deux fois, on peut changer le mot, ou changer dans une signification diverse pour un même mot, mais là, c'est plus que cela. Vous l'avez vu, et puis surtout, tout ce qui peut se dire. Merci Patrick, merci et bravo pour ce travail. Bravo aussi Gérard qui a aidé. Bravo Monsieur Roland qui n'est pas là. Mais c'est sûr que bon, on aimerait bien encore et encore du travail comme ça.
Si vous avez,
ça c'est vraiment bien.
Quelques vingtaines d'euros.
Le micro parce que.
Ah, oui.
Si vous avez l'occasion d'acheter ce livre de Roland, qui, dictionnaire étymologique de Hatier, c'est un bijou pour connaître la langue française et, la signification profonde des mots français.
Ah, oui.
C'est magnifique. Enfin, moi, je me suis vraiment passionné à lire essayer de lire. Je n'ai pas appris tout par cœur, bien sûr. Mais quand on plonge dans les mots, il classe les mots par classe, en fait. Il groupe les mots par groupe de signification commune. Et on retrouve à la fin une sorte de petit répertoire de tout ce qu'on peut trouver. Il réfère toujours à un mot-clé qui va orienter sur un groupe de mots qui sont très proches. Et on apprend des choses qui sont vraiment fantastiques. Et vraiment, c'est un livre à
c'est un dictionnaire,
Alors, il faut prendre le Hatier, parce qu'il y a le Larousse, qui est tout à fait insipide. Et le Hatier, vraiment, qui est un vrai bijou. Il y a Jacqueline Picoche qui fait partie de ce groupe avec Jean-Claude Roland, c'est vraiment passionnant.
En tout cas, ça nous montre cette capacité de la lecture biblique, des lectures bibliques possibles à faire et renouveler sans cesse pour peut-être mieux percevoir, mieux comprendre les textes, parce que lorsque Patrick nous met un mot, enfin, avec seulement deux lettres, tout ce que l'on peut faire comme mot, c'est dire l'interprétation. Alors c'est vrai qu'il faut connaître vraiment très très bien l'hébreu pour pouvoir travailler cela. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici.
Il n'y a que 22 lettres. Hein,
c'est mais il n'y a que 22 lettres, d'accord. Mais il faut voir tout ce qu'il y a. Mais ça donne une capacité de lecture, surtout, sans cesse renouvelée. Et cela, je pense que c'est ce qui fait évoluer nos consciences. Parce qu'une lecture, elle peut ainsi se faire avec ce que l'on ressent aujourd'hui dans nos vies. Et même si on prend toujours des grands maîtres comme Rashi, comme Hirsch, ou plein d'autres, comme Kélos ou d'autres, il y a la référence qui se fait, n'est-ce pas? Mais il y a aussi ce que nous, on peut ressentir en lisant un texte. Et c'est pour cela qu'en général, il faut être avec un maître ou avec quelqu'un qui est très connaisseur. Là, on a la chance d'en avoir deux. Chez nous, trois, parce que Samuel aussi connaît beaucoup de choses. Et donc, voilà, merci vraiment. Alors peut-être y a-t-il quelques questions à poser concernant justement cette lecture biblique ou ces références dans la Bible. Est-ce que vous aviez regardé peut-être une curiosité, vous saviez qu'il y aurait ce mot? Mais pour ceux qui sont, par exemple, hébraïsants, je ne sais pas, vous aviez pu voir ou...
Moi, je voudrais demander, j'ai pas eu le temps de...
Là, le micro, le micro.
Alors,
le micro, parce que sinon, on ne comprend pas la réponse.
C'est un dictionnaire étymologique qui est en vente dans toutes les grandes librairies. De la langue française, tout à fait. Mais de Hatier. Il faut bien prendre le Hatier, parce que vraiment, l'autre n'a rien à voir. Hein.
Est-ce qu'il y a des remarques? Non.
À chercher.
Merci.
Alors, bien sûr, un immense merci à toi, Patrick, pour ton érudition et pour le don remarquable que tu as à nous la partager, cette érudition. C'est une érudition qui revêt la forme d'une exploration à la fois extrêmement large. Là, on ne l'a pas trop vu ce soir parce que le temps était strictement compté. Extrêmement large et très, très approfondi. Et je ne peux que vous conseiller de vous abonner, en fait, donner votre mail à Patrick, parce qu'il produit des travaux absolument remarquables, à peu près chaque semaine.
Toutes les semaines.
Et il les met gracieusement à la disposition de celles et de ceux qui le souhaitent. Au sujet de la violence, je voudrais dire plusieurs choses qui ne sont pas de moi. Vous savez que j'interviens toujours, mais je prépare, et j'ai préparé bien sûr mon intervention. Ce que j'ai relevé pour ce soir, c'est par rapport à ce que tu nous as dit, c'est que Dieu a le souci de nous permettre de faire face à la violence, de faire face, c'est-à-dire de rester debout, et d'abord de faire face à la violence qui nous habite, parce que c'est la première source de violence. Et le très regretté Raphaël Drahi rappelait souvent que le décalogue a été révélé à l'humanité pour lui permettre de s'engager résolument sur les chemins de la vie et faire de sa propre histoire autre chose qu'une succession calamiteuse de violence. Je dis souvent ici que si j'avais qu'un verset à retenir dans la Bible, ce serait le Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'ai mis devant toi, voilà. Et puis, le Premier Testament, la Bible hébraïque, Premier Testament pour les chrétiens et Bible hébraïque pour nos amis juifs, nous montre que Dieu n'est pas dans la violence. Il le rappelle avec Élie. Il n'est pas dans la violence. Il est dans le doux murmure du vent et non pas dans le vent violent. Et puis Zacharie, chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais par mon esprit, dit Dieu. Et puis par rapport à ce que Eliane nous a dit, renouvellement des lectures, Marc-Alain Wattenin qui dit « La Bible, en son essence première et dernière, est de rendre possible un règlement des conflits par la justice et la parole et non par la violence. » Alors c'est vrai que malheureusement c'est pas toujours aussi simple. Ce n'est pas toujours aussi simple parce que, je vais vous dire deux choses qui sont très désagréables, mais vous allez vite les oublier. C'est qu'il y a des choses terribles qu'on trouve dans les Bibles. Par exemple, alors je l'avais noté, mais je ne me rappelais plus, quand j'ai préparé ce soir, je ne revenais plus, j'ai dû vérifier que c'était bien, je ne m'étais pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé. On trouve dans le psaume 58, Dieu casse leur les dents dans la gueule. Eh oui. Eh oui. J'ai vérifié. Hein. Alors après, ça peut varier selon, selon son dentiste, disons, mais c'est toujours le même. Et puis, dernière chose, c'est tout à fait d'actualité, combien de violences sont commises au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Voilà, merci infiniment.
Merci, Laurent.
Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir ?
Venez pour avoir le micro. Le fil n'est pas assez long.
En fait, je voulais juste compléter sur le psaume 58, parce que j'avais préparé aussi le verset 11, qui va un peu plus loin que les dents cassées, qui vient d'être mentionné. Le juste se réjouira quand il aura vu la vengeance, il baignera ses pas dans le sang du violent. Voilà. Ce que je voudrais, oui, ajouter, c'est qu'il me semble que plus généralement, quantitativement, il y a beaucoup plus de versets violents dans l'Ancien Testament que de versets non violents. Ça, c'est statistique, il me semble. Et pour moi, c'est un problème en tant que lecteur de la Bible, c'est que, par exemple, dans les psaumes, je pensais, avant de les découvrir, que c'était surtout des appels vers Dieu. Pour l'homme persécuté. Mais en fait, j'ai remarqué que beaucoup de psaumes étaient très violents et appelaient à la vengeance, parce que dans le verset que j'ai cité, il y a le mot vengeance qui me gêne beaucoup personnellement. Voilà.
Je voudrais répondre, alors c'est pas moi qui réponds, mais là encore avec Raphaël Drahi. Parce qu'effectivement, cette question, elle revient régulièrement. Chez les chrétiens notamment, qui disent, mais nous, on est tout bon là, avec le Second Testament. Par contre, alors le premier, voilà, le premier pose problème. Et Raphaël Drahi dit, la présence dans la Bible de récits manifestant la violence, la haine, atteste de l'éthique des rédacteurs, qui n'ont voulu rien censurer. Tout est dit, y compris les pires travers qu'on voit, par exemple, avec le roi David. Le roi David, c'est pas n'importe qui. Rien n'est censuré. Et ça, ça relève vraiment de l'éthique. Et il dit, ces comportements parfois sordides, en fait, c'est à charge pour nous de comprendre la différence dans le récit biblique entre ce qui est décrit, en l'occurrence la nature inhumaine de l'être humain, donc entre ce qui est décrit et ce qui est prescrit, les mitzvot, 613 mitzvot. Chacun est donc invité à se démarquer des comportements violents et haineux pouvant être relatés et surtout pouvant être ressentis. Quelqu'un disait cette semaine, j'ai plus en tête l'auteur, disait, en fait, c'est Régis Debray, en fait, le barbare sommeille dans chaque être civilisé. Et donc, ça, le Premier Testament, avec toute sa violence, il est là pour nous rappeler qu'en fait, on n'invente rien, c'était déjà présent. Voilà, et ça continue à être présent.
Merci, bonjour. Bonjour, Patrick. Patrick est dans le prolongement de Betty, de la. Litia, la personne qui a fait la conférence la dernière fois, tu es tout à fait dans le prolongement. C'est-à-dire que c'est, si on prend les textes comme ils sont, si ce n'est pas analysé comme l'a fait, on ne comprend rien. Et chacun peut interpréter à sa façon. Et chacun, c'est un sujet où on peut être bon ou on peut être très mauvais, puisqu'on est partagé tous, on a ça en nous. De toute façon, c'est comme ça. Et c'est dommage que ça ne soit pas plus clair. Voilà, parce que chacun peut dire, toi, tu parlais d'Hamas, ou le bien, le mal que nous avons, et ce n'est pas débroussaillé, ce n'est pas éclairé. Et c'est dommage qu'il faille des conférences avec des gens, des érudits, pour essayer d'analyser au plus profond. C'est dommage que ce n'est pas plus clair pour tout le monde. C'est ça que je veux dire. Parce que chacun l'interprète à sa façon. Donc chacun peut dire, mais tu as vu, dans tel verset, on se tue. Là, ils sont à toi, tu peux tous les tuer. Et le contraire. Et c'est un peu dommage. Et ça fait un tas de problèmes. Parce que chacun interprète à sa façon. Et c'est bien dommage. Alors que Dieu, il est amour, mais quand on lit, ben, il parle des hommes. Et en réalité, il parle vraiment des hommes et ce que nous sommes. C'est-à-dire, on peut être extraordinaire ou pas grand-chose. On peut être les méchants ou les mauvais ou les gentils. C'est un peu ce que je regrette dans ce que j'ai entendu la dernière fois, et même avec toi. Et on reste sur sa fin, parce qu'on dit quand même, c'est dommage. Non, pas tant mieux. Mais non, parce que ceux qui sont les méchants, ils se régalent. Mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a pour tout le monde. Et ça devrait être, pour moi, ça manque de clarté. Mais c'est pas la faute aux gens. C'est comme ça. Et parce que l'homme, il n'est pas clair non plus. Voilà. Voilà, merci, Patrick, parce que tu as été brillant. Là. On a été surprise en surprise.
Merci, c'est moi qui le fais. Merci beaucoup. Mais en même temps, bien sûr, vous avez raison, et en même temps, pas tout à fait. Parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est que chacun puisse aussi avoir sa part de sensibilité ou de réaction. Et puis la discussion, elle est importante. On connaît bien ça dans les études talmudiques, dans les écoles talmudiques. C'est ce pile-poule, là, cette façon de parler, de se rencontrer, de ne pas être tout à fait d'accord. Sur une même phrase, sur un même mot, sur un même ressenti, et puis d'échanger surtout, et de pouvoir grandir dans l'échange. Maintenant, des groupes comme les nôtres, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus, mais ça, nous, on ne demande que ça, de venir, d'apprendre, et puis ce que l'on essaie de faire. Donc, et si en même temps tout le monde pensait la même chose et voyait les choses, c'est ce qu'on appelle la pensée unique.
Babel.
Et c'est Babel, ça ne fait pas avancer le monde. Alors, on n'est pas obligé de tout le temps comparer, mais il est sûr qu'une lecture du premier degré, surtout souvent mal traduite, les mots sont violents, les mots sont durs, on se dit c'est pas possible. Ben non, Thierry, si je suis en train de dire, c'est aussi beaucoup pour monsieur. Dans la réaction, donc si tu lui parles, je suis désolée, il ne peut pas écouter deux à la fois, justement, voilà. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que malgré tout, si vous voulez, le fait que nous puissions avoir des idées différentes et en même temps pouvoir échanger calmement, gentiment, sans violence, je pense que c'est une qualité. Et la lecture se fait différemment, même nous, je pense même beaucoup dans le monde juif. Hein, et les lectures sont faites même différemment pour un même mot. Donc, pourquoi pas ? Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce que je voulais exprimer.
Je ne sais pas si j'aurais peut-être voulu rajouter juste un petit chose à
propos du titre que j'avais choisi, La douce violence. Parce qu'en fait, j'ai pris l'exemple de Sarah par rapport à Agar. C'est quelque chose qu'on rencontre de nos jours de façon extraordinaire. Enfin, moi, je vois en tant que médecin, le nombre de cas qu'on voit dans les entreprises de petites peaux de banane qu'on met tout doucement sans que ça soit dit et puis ça se répète, etc. Au point que la personne finit par chercher à démissionner, même quitte à perdre tous ses droits sociaux. Pareil dans les familles, les couples où le mari fait des petites choses, on appelle ça des pervers narcissiques, où on voit le mari qui fait des petites remarques désobligeantes pour sa femme, ou pareil entre les enfants, où le gamin qui essaye de tester ses parents en lui faisant des petites... petites crasses par derrière. Et là... Elle semble, Sarah semble dire à son mari, interviens, soit un homme, soit capable de dire stop. Et c'est souvent ça qui manque dans nos sociétés, que ce soit dans la société professionnelle, dans les problèmes de couple ou de nos enfants. Il faut savoir dire stop. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le chef doit se manifester et remettre de l'ordre dans les choses. Et après, toute violence disparaîtra et on sauvera non seulement le reste de la grappe, mais peut-être toute la grappe elle-même. Quoi.
Shaddai, de la vigne.
C'est assez.
Comment ?
Shaddai.
Voilà, exactement. Shaddai.
C'est assez.
Exactement.
Est-ce que on passe à table ? c'est pas une douce violence, là, c'est un compliment. Ah, Dominique,
moi aussi. J'ai proposé parce qu'il y a même deux voix.
Non, une remarque pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, et ça fait une partie du Nouveau, on s'aperçoit qu'on attribue toujours à Dieu la violence lorsqu'on le met dans sa poche, tout simplement.
Un petit mot pour la violence. Je le lis un peu à ma manière. Quand je lis toutes ces violences dans la Bible, j'ai l'impression que c'est le peuple juif qui dit tout ce qu'on lui fait, les tortures qu'on lui fait, casser les dents. Je le lis en me disant, ben tiens, c'est quelqu'un qui a vu les dents de ses enfants cassées, plutôt que de vouloir les casser aux autres.
Je n'ai pas très bien compris.
Je pense que quand le peuple juif exprime dans les psaumes sa violence, c'est celle qu'il reçoit. Parce que personnellement, quand on me fait une violence, malheureusement, je me dis, ben, si je pouvais l'attraper, lui donner un coup de boule ou lui donner un coup de pied dans le ventre, ça... Et c'est parce qu'on me l'a fait avant moi. J'essaie de le lire comme ça. Peut-être à tort, mais...
Disons qu'il y a une très très mauvaise interprétation de l'œil pour œil et dent pour dent. C'est pas du tout ça. C'est la valeur de ce qui a été fait qui est rendu, mais dans le sens positif. On casse les dents de quelqu'un, on va lui rendre en valeur matérielle le fait qu'on lui ait cassé les dents. Donc on a dit « dent pour dent », parce qu'on ne lui donnera pas plus que la valeur de la dent. Si on crève un œil à quelqu'un, enfin...
Mais préjudice.
C'est le préjudice. Et ça, ça a été une catastrophe pour le peuple juif.
Et ça, il faut lire le livre de Raphaël. Là, en fait, je vous encourage à lire le livre de Raphaël Drahi, encore, sur la loi du talion, parce que c'est expliqué de manière absolument lumineuse. Et on voit en fait ce qui a été fait de la loi du talion, notamment chez nous chrétiens. Hein, et en fait, c'est pas du tout ça. Et lui, il l'explique dans son livre de manière absolument lumineuse.
C'était vraiment une grande perte. L'année dernière, on a perdu deux grands maîtres du judaïsme, Raphaël Drahi et puis. Ils sont morts à moins de deux mois d'écart. Voilà.
Ah, oui,
Benny Gross.
Mais lui, voilà.
Voilà. C'était deux, Et là, si vous voulez réécouter des conférences extraordinaires, allez sur le site donc, de notre groupe. J'ai mis en couleur fuchsia, en rose, disons, l'accès à toutes les conférences qui ont été mises à disposition sur le site d'Académ. Et ça, c'est absolument prodigieux, parce que l'un et l'autre sont très érudits et ont cette capacité de faire partager cette érudition.
Et surtout, ce n'est pas pour le monde juif spécialement. Non. Oui, certes, mais justement, c'est vraiment pour toute l'humanité, pour chaque humain. On peut entendre ce qu'ils disent, on n'est pas obligé de mettre dessus le fait religieux ou d'où l'on vient. C'est universaliste. C'est ce que faisait le grand rabbin Gage à Genève. C'est un côté universel. Donc ça, c'est merveilleux comme enseignement, merveilleux. Bien, je crois que là, je pense que ça sera bien qu'on se retourne pour aller vers le buffet. Merci encore, merci beaucoup. Alors, peut-être lorsque tout sera fini, quelques bonnes volontés, comme toujours, n'est-ce pas, pour ranger la salle. Et merci.